nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de violence et crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.
Je ne vous veux aucun mal. Vous êtes des nôtres. Peut-être m'a-t-il pris pour un autre. Peut-être. Il soupire. Le train file. Enfin, le train est arrivé à la gare de Lyon. Ouf, le voyage est fini. Il prend sa valise et sort du compartiment. Il y a un peu de monde sur le quai, longe le quai pour prendre le passage souterrain et sortir de la gare. Tout à coup, dans le passage souterrain, devant lui, au milieu de la foule, il reconnaît la jeune fille. Oui, c'est bien elle. Son corps lui dit. Elle a le même cheveu de dos et habillée de la même façon. Cette fois, il ne la lâchera pas. Le destin a voulu qu'il rentre à Paris en même temps qu'elle. C'est un vrai signe. Il y a une dizaine de personnes entre eux. Ils marchent d'un bon pas pour ne pas la perdre. Ils n'osent pas l'appeler et puis dire quoi. Non, il vaut mieux la suivre, la dépasser pour lui parler en premier, la suivre et ne pas la perdre. Il a le corps qui bat très fort, très fort. Les oreilles qui bourdonnent. Il a chaud, il a tellement peur de la perdre. Le mordre, en pied. Le monde n'existe plus pour lui. Il n'y a que la jeune fille à suivre. Elle marche d'un bon pas. Insouciante, comme une personne qui ne sait rien. y a toujours du monde. Devant eux, ils marchent vite pour être à côté d'elle. Ils marchent plus vite, dépassent tout le monde. L'argent du passage souterrain, il est tout près d'elle.
Sans poser de questions.
Personne entre eux. Il a le corps qui bat et se dit qu'il ne veut plus la perdre de vue. Arrivé sur le quai, elle se dirige vers un train. Il la suit. Elle monte dans le compartiment. Il la regarde. D'hésitation. Il a une seconde d'hésitation. Pour la suivre, d'un coup, une dizaine de personnes qui bousculent. Elle est loin du train. C'est trop tard. Beaucoup trop tard.
C'est le moment de le prouver. Donc, tu stockes là-dedans toutes les instructions avec les cartes à poster à la date indiquée.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Sans poser de questions.
Le train s'éloigne. Il n'a pas pu rentrer dans le train. Il a le corps qui bat. Envie de pleurer. Que part en chantant, la foule autour de lui se dégage. Il se retrouve au milieu du quai. Une sensation étrange, une réflexion lui vient. Ces gens qui l'entourent avaient un visage étrange, dur. Ils ont fait exprès de l'entourer, de l'empêcher de prendre le train. Pourquoi ? Pourquoi ? Il est vidé. C'est plus. Il n'a plus envie de rien. De rentrer chez ses parents. Il l'a encore perdu. Et pourquoi l'a-t-il empêché de le suivre ? L'a-t-on empêché de le suivre, de la suivre ? Qui sont ces gens ? Et l'homme du train qui était dans le train ?
Pour la direction de Pontivy, départ 18h55, correspondance par autocar pour la direction de Quiberon, départ à la gare routière.
Poster à la date indiquée.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Sans poser de questions.
Il sort de la gare sans se presser. Il sort de la gare à petits pas. Essaye de voir s'il ne voit pas une personne qui l'a bousculé tout à l'heure.
J'étais sûre d'être juste.
Mais non, la gare est calme. Il se sent vidé. Il se dit qu'il ne la verra plus. Jamais, jamais. Pourquoi ne veut-il pas la revoir ? Pourquoi ?
Pardon, monsieur, ça vous ennuierait pas de vous bouger un peu parce que j'ai mon mari et mon fils et puis ma fille qui part en voyage. Alors on aimerait bien être ensemble. On a mal calculé notre heure, alors si on veut grignoter quelque chose, ce serait mieux.
Il est sorti de la gare. Le jour, la chaleur, la ville, le bruit, le fatigue. Il décide dès d'avant de se remettre en route, de prendre quelque chose en remontant. Il traverse la rue pour entrer dans un café glacé, restaurant. Il s'assoit à une table. Le serveur vient vers lui et lui demande :
désirez? Un cognac. Bien, monsieur. Le serveur s'éloigne. Gilda se demande ce qu'il fait dans cette ville.
Madame, s'il vous plaît.
Paris. La ville qui appartient à son père. Comme si...
J'ai l'impression que le temps passe à une vitesse aujourd'hui.
Les gens, le monde,
j'ai l'air fatiguée.
Comme si Paris pouvait appartenir à quelqu'un.
C'est bizarre, c'est quand on a mal.
Le serveur revient, il lui apporte son cognac.
C'est pas que j'ai mal.
Il le paye.
C'est pas ça, non.
Merci. Gilbert,
Madame,
Gilbert Bois, il en a bien besoin. Quelle tristesse.
J'ai l'impression que le temps passe à une vitesse. Aujourd'hui.
Une envie de suicide.
J'ai l'air énervé.
Lui vient.
Non.
Et puis non. À quoi bon? Les gens qui lui veulent du mal seraient trop heureux d'apprendre sa mort. Mais pourquoi lui veut-on du mal? Parce que si on lui veut du mal, puisqu'on ne veut pas qu'il voie cette fille, c'est qu'on lui veut du mal. Puisqu'on ne veut pas qu'il voie cette fille. C'est qu'on lui veut du mal.
En crédité variée, c'est bien. Ça ira comme ça, faut pas
À moins que ce soit à elle
café,
qu'on en veut.
On peut avoir café,
alors il la sauvera. Ils partiront loin, très loin.
Vous pouvez m'emmener le sandwich d'abord.
Il en a assez de la France. Il veut aller dans un pays où on peut entreprendre sans être anarché par l'État. Ils partiront ensemble. Ils recommenceront à zéro. Oui, à zéro.
Devine qui est venu me voir ce matin à 7h.
À 7h? Ou chez toi?
Oh. J'ai pas faim, t'en veux?
Non.
Aimer quelqu'un à vivre avec toi, ce sont deux choses différentes.
À des moments, je me demande si tu crois ce que tu dis.
Il a fini son verre. Il sort du café.
Je crois que monsieur peut attendre.
Tu passes ça ?
Et il marche. Il décide de rentrer à pied. Il y en a à peu près pour une heure. Il se dit boulevard de Lyon, Bastille, Saint-Martin, Saint-Denis, Poissonnière, Hoffmann, Galerie Lafayette, Église Capucin et Avenue Velasquez en 1h30. Je suis arrivé. Paris n'est pas si grand que ça. Il se met en marche. Il se dit, si l'on me suit et que je la vois, qu'une personne m'empêche d'aller à elle, cette fois, je crie et je cogne. Peu de passants dans les rues. Et de circulation. Il y a quelques cars qui circulent, tels que le vin, que Gilbert va suivre son trajet jusqu'aux Galeries Lafayette. Il marche d'un bon pas à heure de rentrer chez lui. Sa valise ne lui pèse pas trop. Il a encore soif et commence à avoir faim. Il décide de ne pas s'arrêter et de rentrer chez lui de suite. Il voit des affiches de cinéma qui repassent le film Le Titanic en version intégrale. C'est la saison morte des spectacles qui commence. Il se souvient, en regardant l'affiche, que des filles au lycée lui disaient qu'il ressemblait à Léo. Cela le faisait rire. Maintenant, plus personne ne le lui dit. Il se dit aussi qu'heureusement, il a fini son devoir, car il n'aurait pas la force de le terminer. Il va encore passer une nuit agitée à penser à cette rencontre ratée dans la gare.
enfin, il arrive devant la maison de ses parents. Il appuie sur la sonnette. La porte s'ouvre. C'est le majordome. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il entre. Le domestique ferme la porte. Monsieur est venu de la gare par ses propres moyens? Oui, et je suis crevé. Monsieur aurait dû téléphoner pour qu'on vienne le chercher. Je n'en avais pas le courage. Je vais dans ma chambre. Préparez-moi un bain et quelque chose à manger. Bien, monsieur. Et il monte à sa chambre. Entrer, que le téléphone sonne. Il entend le domestique décrocher. Et monter les escaliers. Frapper à sa porte. Entrez. Il entre. Monsieur, c'est madame qui veut savoir, qui aimerait vous parler. Bien, je descends. Et il descend au bureau de son père. Rentre au bureau pour prendre. S'assoit au bureau pour prendre la communication. Allô, maman? Oui, je suis bien rentrée. Tout va bien. Non, père n'est pas là. Je me change et prends mon bain. Et après, je vais manger. Et toi, ça va? Oui, à bientôt. Au revoir. Il sort du bureau pour aller dans sa chambre. Une fois dans sa chambre, il se déshabille. Pour aller dans une sorte de bain où un bain est déjà préparé. Une demi-heure plus tard, il est dans sa chambre à s'habiller. Il fait les poches de son costume. Pour prendre ses affaires. Il trouve dans la poche de sa veste un papier froissé. Il défroisse pour voir ce qu'il y a d'écrit dessus. Ellie, il ne faut pas suivre ses impulsions, mais les réfléchir avant de faire l'inévitable. Il se demande ce que cela veut dire.
dire et qui lui a mis ce papier. Puis, hausse ses épaules et se dit que sûrement que ce devait être un de ces prophètes que l'on voit dans les rues et qui distribue des bouts de papier où sont inscrits des passages de la Bible. Il froisse ce papier et le jette. Le lendemain, en sortant de l'université où il a déposé son exposé, il rencontre à la sortie son ami Julien Sève. Salut Julien, salut Gilbert, tu es revenu ?
Oui, la campagne et moi, ça fait deux. Et puis ma mère avait une amie. Elle n'avait pas besoin de moi.
Je comprends, elles t'ont laissé toutes les deux pour leur bavardage de bonne femme.
Gilbert rit et lui dit « C'est pas tout à fait le genre de l'ami de ma mère. Elle est plutôt du genre sexuel, sensuel et pas tellement bavardage de femme. »«
Oh, tu en as profité, j'espère. » Gilbert rougit et lui dit « C'est elle qui a voulu en profiter. Il va falloir que tu me racontes ça. Allons dans un bar. Tu veux bien ?»«
Oui, je veux bien. »
Et Julien amène son ami dans un bar. Julien est un vieil ami d'enfance de Gilbert. Ils ont le même âge tous les deux, 18 ans. Julien a la même taille que Gilbert, grand, mince, des cheveux châtains qui ondulent. Il a un visage d'angelo avec des yeux dorés et des fossettes. De belles dents blanches, on a l'impression qu'il va toujours sourire et rit souvent. Il fait plus jeune que son âge. Sa démarche, ses gestes sont distingués. La distinction des dieux, habillé d'un costume velours marron, chemise, cravate, il peut s'habiller avec désinvolture. Il restera toujours à part et on le remarquera toujours. Mais il ne s'habille jamais d'une façon désinvolte parce qu'il n'aime pas ça. Les jeunes n'aiment pas son genre. Pour ce qui est de ses relations, il suit les cours, il choisit d'instinct et prend toujours ce qui est le mieux, sauf peut-être lorsqu'il est pris par une fille. Julien aime Gilbert parce qu'ils se ressemblent et que Gilbert est beau, distingué lui aussi. Ils s'entendent bien et ont tous les deux les mêmes goûts. Gilbert l'aime bien pour les mêmes raisons que lui l'aime. Il y a entre eux plus que de l'amitié. C'est charnel, instinctif, comme deux jumeaux. Mieux que deux jumeaux parce qu'ils ne sont pas obligés de s'aimer. Lorsqu'on les voit tous les deux, ensemble, ils se complètent. Ils se ressemblent. Même allure, distinction, même geste, même genre d'habit et d'idées. La seule différence, c'est que Gilbert est blond et visage plus rond et Julien est brun. Julien emmène Gilbert dans un café près de l'université. Ils sont entrés. C'est un grand café pour étudiants avec jeûne, repas à toute heure. Il y a foule, ils traversent et trouvent tout de même une table au fond du café. Un serveur vient vers eux.
Julien lui dit, jus de tomate et toi Gilbert, moi aussi. Le serveur s'éloigne. Gilbert lui demande, alors l'université. Julien veut être médecin. C'est-à-dire qu'il faut que s'y accrocher. Et toi? Moi, ça va, c'est plus moins difficile que toi. C'est la littérature. Le serveur arrive et dépose leur boisson, puis s'éloigne. Ils se préparent leur jus de tomate et boivent par gorgée. Julien demande, alors raconte l'histoire avec la fille. Gilbert hausse les épaules et lui dit, c'est pas une fille, mais une femme, presque aussi vieille que ma mère. Et puis je n'aime pas parler de ces choses. Enfin, je n'aime pas parler de ça.
J'attends un enfant de ton fils.
Surtout pas d'elle, pardonne-moi. Julien lui dit, fais attention, les filles, pense à ton avenir. Parce qu'une fois que tu es pris, c'est fini. Et elles en profitent. En ce moment, t'es amoureux ? Gilbert lui dit, oui. Oh là là, à ton âge, c'est foutu. Tu risques de perdre ta jeunesse. Gilbert lui dit, arrête de parler comme un vieux. Toi aussi, ça peut t'arriver. Julien lui dit, je fais attention à ce que ça ne m'arrive pas. Comment ? Lorsqu'une fille me plaît, j'essaye de voir ses défauts. Et j'en trouve toujours. Et lorsque je vois les défauts d'une personne, je ne peux pas l'aimer.
J'attends un enfant de ton fils.
Lui dit, tu dis ça, mais moi, tu m'aimes bien malgré mes défauts. Toi, c'est pas la même chose. Tu as les mêmes défauts que moi. Alors, qui est cette fille que tu aimes ? Gilbert lui dit, une jeune fille que j'ai croisée dans la rue. J'ai tout de suite eu le coup de foudre. Malheureusement, je ne sais pas qui elle est, ni où elle habite. Tu ne l'as vue qu'une fois ? Non. Tiens, en sortant du train sur le quai de la gare, je la vois. Je suis décidé à ne pas la perdre. Malheureusement, elle est entrée dans un autre train. J'ai voulu entrer dans son wagon, mais je me suis trouvé tout d'un coup entouré de gens qui m'en ont empêché et le train est parti. Chose étrange, la foule s'est écartée aussitôt. J'ai eu une drôle d'impression, comme si ces gens qui ne voulaient pas que je prenne le train, ils m'ont entouré pour m'en empêcher. Mais pourquoi ? Qui étaient ces gens ? Et plus j'y pense, plus je me dis que l'on ne veut pas que je voie cette fille. Julien lui dit, je ne crois pas. Ces gens étaient des gens comme on en voit dans les gares. Gilbert lui dit, oui, mais pourquoi m'ont-ils ?
Les Portugais, ils font sa mère.
Laissé après le départ du train. Oh, c'est un hasard, peut-être était-il venu dire au revoir à un ami ? Gilbert lui dit, non, je ne crois pas. D'ailleurs, j'ai trouvé un papier étrange dans ma poche me disant que je devais me méfier de mes instincts. Alors ? Julien hausse les épaules et lui dit, pur hasard, les papiers n'a peut-être rien à voir avec ton histoire, mais au fait, la fille est partie. Oui. Julien lui demande, elle est comment ? Elle est grande, mince, blonde, cheveux longs, elle a peut-être des yeux bleus. Julien lui dit, tu ne penseras plus à elle dans quelque temps. Ce n'est qu'une apparition. Ils finissent leur verre et sortent du café. Julien demande, on va chez toi ? Oui. Oh, puis non, on va chez toi. Julien lui dit, bon, d'accord. Julien lui dit, bon, d'accord. Et ils y vont à pied, parce que nos deux amis aiment bien marcher et que c'est difficile d'avoir un transport en commun avec les travaux dans Paris. La circulation est difficile. Julien habite chez ses parents, place de l'Étoile. La plupart du temps, il vit seul, avec ses deux domestiques. Ses parents sont souvent en voyage, surtout en Amérique du Nord. Il est biologiste et fait de la recherche sur le vieillissement, connu mondialement. On le demande de partout dans le monde pour avoir ses opinions. Les laboratoires américains l'ont embauché pour certains travaux, mais il reste indépendant et travaille pour d'autres chercheurs. D'ailleurs, sa femme lui sert d'assistante. On parle de lui pour le prix Nobel. C'est un Français reconnu mondialement, sauf dans son propre pays, où il ne peut travailler par manque de moyens et de croyances. Et en ce qui fait, le monde entier croit en lui, mais les Français ne croient pas en lui. D'ailleurs, la France est réticente à toute modernité. Elle refuse tout progrès par peur. Et cette politique va la mener dépendante des autres, surtout des Américains. Où est le temps où la France avait des pasteurs, curés, Lumière, Berliers, etc., etc. Maintenant, elle est devenue anar-écolo, anti-tout. Julien emmène Gilbert, place de l'Étoile. C'est là que se trouve l'appartement de ses parents, dans un immeuble du 19e bourgeois. Ils entrent dans l'allée. Grand escalier en marbre, immense escalier avec rampe en pierre moulée. Ils prennent l'ascenseur. Jusqu'au dernier étage. Les Serges ont tout l'étage pour eux. Deux appartements et en plus la terrasse. L'appartement est à 7 pièces, plus cuisine et chambre de bonne. Sortent de l'ascenseur. Il va sonner à la porte de l'appartement. Elle se trouve au centre du palier, entre deux immenses pots de fleurs qui sont sur des commodes Louis XV. La porte s'ouvre. C'est le domestique, un grand homme à cheveux blancs, habillé de noir. Bonjour, monsieur. Bonjour, Rudolf. Ils entrent. Le domestique ferme la porte. Julien lui demande. Rien de nouveau? Non, monsieur. Et monsieur a besoin de quelque chose? Julien regarde Gilbert et lui demande. Tu veux dîner avec moi? Oui, si ça ne te gêne pas, je suis seul alors. Autant en profiter, Julien dit à Rudolf. Pour le dîner, 2 couverts. Bien, monsieur. Et il les laisse. Ils sont dans un grand hall d'entrée tapissé crème. Le hall est en demi-cercle. Il y a 3 portes, une à double battant vitré qui donne au salon sans la manger, une autre au bureau de son père et une au couloir pour les autres pièces. Allons au salon. Gilbert suit Julien. Entre. Il entre. La pièce est immense et divisée en 2 parties. Un pour ce coin sans la manger qui se traverse avec un plancher. Les meubles sont Louis XV, la tapisserie beige, grande baie vitrée qui donne sur la place de l'Étoile. Dans le salon, il y a même un clavecin. Julien lui dit, Je vais te faire écouter de la musique. J'ai acheté quelque chose de très bien, un tout nouveau compositeur. Gilbert lui demande comment il s'appelle. Lionel. Je crois qu'il ira très loin. Tiens, tu vas voir. Julien va vers sa chaîne qui se trouve dans une commode pour mettre en route son CD. C'est pas mal, hein? Les deux garçons vont s'asseoir sur un canapé pour écouter la musique. Une fois que la musique est finie, Julien demande « Comment tu trouves ?»« C'est pas mal, » Julien lui dit « C'est bien !» Puis, Julien se lève pour aller éteindre la chaîne. Et retourne s'asseoir. Lui demande « Et toi, qu'est-ce que tu as acheté comme nouveauté ?»« Rien, je n'ai pas eu le temps de faire les magasins. Et puis j'ai tellement à lire. » Julien lui dit « Moi aussi je l'ai beaucoup en ce moment. Toi, qu'est-ce que tu lis ?»« C'est surtout pour mes cours. En ce moment, je me tape Balzac. Et toi ?» Julien lui dit « Moi, pour le moment, je suis en train de lire un livre passionnant sur le 6e continent. C'est extraordinaire, fabuleux. J'aurais aimé y être et dire que cette histoire s'est passée il y a 18 ans. Comme j'aurais aimé, comme j'aimerais avoir 18 ans de plus. » Gilbert lui demande. Il s'est effondré comment? Julien lui dit. Hélas, ça mystère, personne ne le sait. Est-ce dû à la voix divine ou à une erreur humaine? On ne le sait pas. Mais on va peut-être faire des recherches pour comprendre cette catastrophe. Moi, je crois que le 6e continent s'est effondré, pas à cause de sa construction, mais d'une chose, au début de lui. Ça provient peut-être quelque chose du début. Il ne faut pas oublier, c'est-à-dire, c'est qu'avant la catastrophe, toutes les ondes ont cessé, ont disparu pendant un moment, et que toutes les données magnétiques ont disparu, fondu. Alors, est-ce que ça ne peut pas aider ou provoquer des catastrophes? Gilbert lui demande. Hein, la disparition de toutes ces ondes. On ne sait pas, mais je crois que si l'on arrive à résoudre l'énigme de l'un, on aura la solution de l'autre. Je crois que les deux sont liés. Gilbert lui dit, souhaitons que ça ne recommence pas. Julien lui dit, ça, tant qu'on ne sait pas pourquoi les ondes pendant 24 heures ont disparu, l'on risque à tout instant que ça recommence. Des chercheurs sont pendus sur ce problème et cherchent constamment à trouver une solution pour que toutes les données, les mémoires informatiques, numériques et même analogiques ne disparaissent pas. Faisons attention aux ordinateurs et aussi disquettes et CD. Il y a aussi dans le livre des photographies des gens qui ont participé à cette aventure. Les Jeunetout, les Diap, les Pontois. Je dois avouer, c'est que tu ressembles à Galien, Gilbert lui dit. Non, je ressemble à personne. Julien lui dit, tu as raison, tu es plus distingué et fait plus jeune, mais il y a de la ressemblance, Gilbert lui demande. Il y a encore des membres de ces familles? Non, plus personne. Tous disparus avec le sixième continent, comme la famille Audobor d'ailleurs. Mais l'on dit qu'il reste peut-être la fille Pontois, qui aurait disparu avant le sixième continent. Elle a quitté sa famille d'un coup, on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Gilbert lui dit, ils l'ont peut-être tuée, d'après ce que j'ai lu sur ces familles, ils étaient aussi violents que les Médicis. Julien lui dit, je ne crois pas. La fille était en dehors des affaires de son père. Mais il y a eu un mystère. Elle a disparu le jour de la mort de son père et sa mère a été de suite emmenée en maison de repos. Gilbert lui dit, cela cache sûrement quelque chose. C'est pour empêcher la mère et la fille de dire ce qu'elles ont, ce qu'elles savent, ce qu'elles ont appris ou vu. Julien lui dit, de toute façon, cette histoire est vieille de plus de 25 ans. On ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé le jour de la mort de Félicien Pontois, futur prix Nobel de la paix, mort d'un coup. Mort d'un pot, d'un coup. On a frappé à la porte. Entrez! C'est le domestique. Monsieur, le dîner est servi. Bien, nous allons venir. Merci, Rodolphe. Et le domestique ferme la porte. Julien dit, allons manger, si tu veux le bien. Et il se lève et vont à la salle à manger, dans le coin salle à manger. Maurice, chaque fois qu'il passe place de l'Étoile, regarde le siège jeune tout Pontois. Ce grand immeuble qui a été le siège de la plus grande société du monde est à l'abandon. Pontois jeune tout existe toujours en plus petit et dans un autre immeuble plus modeste. Il ne reste que des bureaux vides. De vieilles archives et un mini-service clientèle pour les centres de Paris. L'immeuble se dégrade et Maurice se dit qu'il faudra le démolir pour construire autre chose. Mais pour une société qui a été numéro un mondial, il ne peut pas faire comme ça. Il veut d'abord parler au ministre de l'Intérieur pour voir s'il est d'accord pour prendre contact avec le groupe Jeune-Tout en faillite. Les groupes qui étaient le centre du monde. et qu'on ne peut pas faire comme une personne, comme un particulier. Et puis, il a été comme l'Empire romain sur son déclin. Vous respectez ce qu'il a été et on est obligé de demander la permission de le démolir. Donc, Maurice demande un entretien au ministre de l'Intérieur qui le reçoit dès qu'il a reçu la lettre. Il lui a écrit pour lui donner rendez-vous à son ministère. Il y va. Le ministre le reçoit dans son bureau. Maurice est mené par un domestique, un huissier. Il va frapper à la porte. Entrez. Fais entrer Maurice. Le bureau est une grande pièce meublée Louis-Philippe. Table de bureau, bibliothèque, table bar. Derrière le bureau, il y a une fenêtre donnant sur un jardin. Le ministre, un gros homme chauve, à lunettes, costume gris, c'est Charles Cholet. Il se soulève et dit à Maurice, « Venez vous asseoir, Félicie, Framblant, Maurice Framblant. Venez vous asseoir. Bonjour, monsieur le ministre. » Maurice va s'asseoir en face du bureau sur une chaise. Je vous écoute, monsieur Framblant.
Eh bien, monsieur, voilà, monsieur le ministre. J'aimerais ces pouvoirs démolir le siège de Tout-Pontois, en construire un immeuble de logement de luxe. Le siège est presque à l'abandon. Il se dégrade et fait mauvais effet, place de l'Étoile. Un immeuble qui se dégrade avec tous ces touristes que nous allons avoir.
Le ministre réfléchit et lui dit, « Oui, bien sûr, mais est-ce que vous aviez contacté le propriétaire pour voir s'il ne pouvait pas, lui, réhabiliter son immeuble ?»«
Non, j'aimerais mieux que ce soit vous. » Qui le fassiez, vu le passé prestigieux de cette société.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.